Cours de philosophie éthique du Père Marie-Dominique Philippe, le 31 mai 2000 à Saint-Géodard.
Alors, il y a quelques petites questions. Peut-on parler d'une éthique des valeurs? Il y a déjà un certain nombre d'années. Et le... à Louvain, qui ont eu les derniers documents au point de vue phénoménologique, la phénoménologie parle de l'éthique des valeurs. Cela a-t-il un sens? Beaucoup pensent trouver par là un renouveau de la morale. Est-ce vrai? Oui. Si vous êtes phénoménologue, c'est vrai. C'est la cause exemplaire qui remplace la cause finale. Si la cause exemplaire remplace la cause finale, ce qui arrive forcément en phénoménologie, on a l'éthique des valeurs. Qu'est-ce que c'est que la valeur? La valeur est une notion subjective. Vous avez votre barème de valeur qui varie suivant justement les sujets. Il n'y a pas de données objectives. C'est dans la subjectivité et à travers la subjectivité que vous établissez vos valeurs. Quelles sont vos valeurs au noviciat? Après, dans la vie apostolique, chez un laïc, chez un chrétien, chez un musulman, l'éthique des valeurs varie suivant les sujets. Pourquoi? Parce que la valeur implique nécessairement l'aspect subjectif en premier lieu. Il y a un jugement de valeur, et la valeur s'établit par ce jugement de valeur que vous établissez vous-même en fonction de la cause exemplaire. Pour le chrétien, la valeur, ce sera Jésus pris comme modèle. L'éthique stoïcienne est une éthique de valeur. La causalité finale est saisie dans l'intelligia. Elle n'est pas saisie par l'acte, mais par l'intelligia. Donc, que l'éthique des valeurs soit intéressante, oui, comme, tout dépend, comme sortie de l'idéalisme. Ça peut être une porte de sortie. C'est un premier pas vers quelque chose de plus objectif. S'y arrêter, c'est demeurer dans la subjectivité de la causalité exemplaire. La causalité exemplaire est nécessairement subjective. Vous donnez à vous-même vos valeurs. Alors, voyez Le Sen, philosophe français des valeurs. C'est une philosophie de la... Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la valeur? Ça implique un jugement de valeur. Vous estimez que telle chose a une valeur suprême. Et vous référez tout. Vous voyez, en fonction de ça, un point de référence, c'était très courant ça, on a des points de référence. Est-ce que Aristote dit ça? Là, vous prenez Aristote comme valeur, ce que dit Aristote. Vous ne cherchez pas à savoir si c'est vrai ou pas vrai, mais puisque Aristote est un grand philosophe, ce qu'il dit, je le considère comme valeur. Donc vous vous appuyez sur une opinion. Et vous restez fixé sur l'opinion. Ça n'aurait de valeur que pour le point de vue chrétien avec le Christ. Mais le Christ n'est pas ma valeur. Il est la voie, la vérité et la vie. Donc, vous voyez bien. Si le Christ disait qu'il était la voie, il serait valeur. Uniquement. La valeur, c'est une voie. C'est une voie très noble, très grande, très belle. C'est une autoroute magnifique. Mais c'est pas la vérité, c'est pas la vie. Tandis que Jésus est pour nous un exemple. Il est valeur, un exemple. On s'appuie sur lui et en même temps, il demande qu'on dépasse ça, qu'on le voit comme Dieu. Si vous voyez le Christ comme valeur, vous le voyez uniquement comme homme, pas comme Dieu. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est valeur. Dans les écrits inédits de Husserl, qui sont la richesse de Louvain, Husserl aboutit à la valeur suprême qu'est Dieu. Mon père, le fondement de la gratuité n'est-il pas aussi l'amour spirituel? N'est-elle pas proche de la charité? Peut-elle aussi être le fondement d'une éthique? Oui, la gratuité se prend du côté de la causalité efficiente. On agit gratuitement, c'est-à-dire on agit non pas en vue de l'utilité, en vue de l'efficacité, mais pour l'amour. Donc c'est une manière propre d'agir. Une manière propre d'agir n'est pas une finalité. Vous tomberez encore dans la philosophie des valeurs. C'est très bien d'agir gratuitement. Sartre a cherché toute sa vie la gratuité et n'y est pas arrivé. Parce que vous n'avez aucun exemple concret de gratuité. Ah, je vous défie. Hein. Donc, vous en faites une valeur, la gratuité. Vous n'avez aucun exemple concret de la gratuité. Votre père était autorité morale gratuitement. Le pater familias avait la gratuité d'agir comme il voulait. Un père qui dit qu'il agit gratuitement sur ses fils, sur ses enfants, et il devient intolérable. C'est lui qui la mesure alors. Parce qu'il agit gratuitement. Or, il n'agit jamais gratuitement. Aucune créature n'agit gratuitement. Chaque fois que vous agissez, vous avez une qualification qui fait que la gratuité n'existe pas pour vous. Chaque fois que vous agissez, vous êtes plus vous-même. Avant le bienfait que vous donnez à l'autre. Quand vous faites une bonne œuvre, une œuvre pieuse, mais vous vous sanctifiez. Où est la gratuité? Il y a un mérite, où est la gratuité? Voyez, c'est très curieux. il faut lire, il ne faut pas nécessairement lire Sartre, parce que ce n'est pas nécessaire de perdre son temps à le lire. Si on a le temps de le lire, c'est intéressant. L'être et le néant, c'est intéressant. Il y a des pages extrêmement intéressantes. Des pages sur le néant, sur le primat du néant, qui sont très intéressantes. Il a cherché la gratuité. Pour agir gratuitement, il faut agir ex nihilo, à partir de rien. Êtes-vous capable d'agir à partir de rien ? Donc la gratuité ne peut pas être un fondement de la morale. La gratuité va apparaître dans un jugement de valeur. Vous direz, Dieu est le seul qui peut agir gratuitement. Ça n'ajoute rien à Dieu de créer. Il crée gratuitement. Il n'est changé en rien. Mais vous ne comprenez pas ça. Il faudrait comprendre Dieu. Pour comprendre la gratuité, il faudrait comprendre Dieu. Alors, vous voyez, négativement, vous dites oui, ça ne peut pas être autrement. Mais ce n'est pas ça qui vous fait comprendre la gratuité. Ça ne peut pas être autrement. Nécessairement, Dieu créateur n'agit pas pour lui. Parce que s'il agissait pour lui, il ne serait plus Dieu. Il aurait besoin de la créature pour être Dieu. Vous avez dit qu'une amitié non finalisée par une recherche de vérité est une amitié qui n'est pas bonne. Ah non, attention. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas bonne, pas parfaite. Hein. Bonne. Il est possible qu'au départ d'amitié, justement, l'importance de la vérité n'est pas première. Tout à fait d'accord. Incoativement, l'amitié ne commence pas par ça. Mais l'ami n'est-il pas le moyen le plus parfait pour éveiller en moi le désir de la recherche de la vérité ? Très bien. Donc, bon, vous acceptez qu'au-delà de l'amitié, il y a la recherche de la vérité, puisque l'ami est le meilleur moyen pour rechercher la vérité. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et vous n'avez pas conscience, ça, au début de l'amitié. On n'a pas conscience. Je t'aime parce que tu recherches la vérité. Tu diras, mais non, tu m'aimes, c'est moi que tu aimes, c'est l'ami qui aime la recherche de la vérité. Mais c'est la recherche de la vérité qui sera la condition sine qua non pour que vraiment l'amitié puisse être parfaite. Puisse être parfaite. L'amitié incoativement, donc bonne, incoativement mais imparfaite. Mais, donc c'est cette affirmation, l'amitié sans la recherche de la vérité n'est pas bonne, non. Elle n'est pas parfaite. Parce qu'au-delà de l'ami, il y a la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité est plus puissante, radicalement. Et elle est l'âme, si j'ose dire ça, elle est le désir foncier de l'intelligence. Une intelligence reste vraie quand elle cherche la vérité. Mais une fois que l'intelligence ne cherche plus la vérité, elle n'est plus vraie. Oui, examen de conscience métaphysique. Cherchez-vous la vérité. Quand vous lisez Aristote me sert pour trouver la vérité. Je cherche dans Aristote la manière dont Aristote a saisi la vérité. La différence d'un pur historien qui cherche... Mais un pur historien ne peut pas comprendre Aristote. puisque Aristote dit lui-même qu'il cherche la vérité. Donc un pur historien qui ne cherche pas la vérité ne peut pas comprendre Aristote. Il faut se mettre dans l'intention d'Aristote pour comprendre Aristote. Je ne comprends vraiment mon ami que quand j'ai la même intention que lui, dans la recherche de la vérité. Mais au début, ça ne se fait pas comme ça. Au début, on aime quelqu'un parce que c'est l'attraction du bien. Et dans l'attraction du bien, on voit que pour que cette attraction du bien soit vraie, il faut la recherche de la vérité. Bon, nous allons continuer. J'ai vu le passage du bien à la finalité. C'est très important de bien comprendre cela. Le bien, c'est ce qui m'attire. Le bien absolu, aimé pour lui-même, c'est ma fin. C'est une fin. Et quand vraiment il est aimé pour lui-même d'une façon absolue, c'est donc le bien au sens absolu. C'est le seul bien qui peut me finaliser parfaitement, c'est Dieu. Le seul bien qui peut me finaliser parfaitement, c'est Dieu. Mon intelligence est extrêmement exigeante. C'est pour ça, du reste, qu'on n'aime pas tellement cette recherche de la vérité, parce qu'elle est très exigeante. Je vois que la seule personne que je peux aimer vraiment, totalement, c'est Dieu. Rien ne peut être avant. Et toutes les autres réalités sont limitées. Donc, il y a le passage du bien à la fin. Et la fin commande en moi cette intention de vie. Je ne peux avoir d'intention de vie que quand j'ai découvert une finalité. Dans le bien, pas en dehors, mais dans le bien que j'aime. C'est à l'intérieur de ce bien que j'aime que je découvre ma fin. Donc vous voyez, ce qui est premier, c'est toujours l'amour, l'amour spirituel. Et cet amour spirituel est capable de mobiliser toutes mes activités quand cet amour spirituel se transforme en intention de vie. Parce que ce bien est absolu. Et je passe à ce moment-là de l'amour à l'intention de vie. Cette intention de vie porte nécessairement sur la fin. Et par là, organise toutes les richesses que je peux avoir en moi au point de vue activité, au point de vue recherche. Tout est ordonné à cette finalité. C'est la puissance de l'intention. L'intention de vie peut organiser ma vie. Alors, quand cette intention de vie est vraiment quelque chose de suprême, Dieu que je recherche, je n'y arrive pas tout de suite. Mon intention de vie peut être l'ami. J'organise ma vie en fonction de cette amitié. Et j'organise ma vie en fonction de cette amitié, ce qui arrive énormément. Oui, j'ai la plupart du temps. Quand je rencontre quelqu'un de jeune, 20 ans, 25, 23 ans, 4 ans, qui aime un garçon, qui aime une fille. Première fois qu'il aime vraiment, il sent que tout est en fonction de cet amour. en fonction de cette personne qu'il aime. Il organise toute sa vie en fonction de ça. Donc, c'est une première finalité. L'amour qu'il a pour cette scène, pour celle, en se posant la question, est-ce que ce sera la femme de ma vie ? C'est leur expression. Est-ce que ce sera la personne que j'aime vraiment ? Il ne sait pas. Il ne sait pas encore. Parce qu'il y a une recherche. Savoir si vraiment cette personne qu'il aime va être suffisamment celle qui pourra finaliser sa vie. Et donc être celle autour de qui je vais organiser toutes mes activités. Je m'aperçois que je ne peux pas organiser toutes mes activités autour d'elle, qu'il faut aller plus loin dans la recherche de la vérité. Mais cependant, cette personne sera à pallier un moment qui aura fait ça. Et puis, si je suis suffisamment lucide, je vois que non. Elle peut être momentanément quelqu'un qui organise toute ma vie, mais pas d'une façon absolue. C'est ce qu'il y a de très fort dans l'intention de vie, c'est que l'intention de vie me permet d'organiser ce petit monde qui est en moi, toutes ces forces qui sont en moi. Je peux les ordonner à cette finalité que je désire, vers laquelle je tends et qu'il faut atteindre. C'est l'intention de vie, ça. C'est quelque chose de très fort, l'intention. Vous voyez, ça joue le rôle d'une certaine sagesse, puisque ça organise. C'est pour ça que les anciens disaient tout le temps que la prudence est une sagesse pratique. Or, la prudence naît dans cette intention de vie. Parce que la prudence permet d'organiser tous ces moyens que je possède et de les organiser en vue de cette fin vers laquelle je tends. Donc, voyez que la prudence commence à naître à partir de cette intention de vie. Je crois que la prudence, c'est la lumière d'une intelligence pratique qui organise tous les moyens qui sont en moi, toutes mes capacités, toutes mes relations, tout mon travail en vue de cette fin. Et c'est pour ça que la prudence est comme une sagesse pratique. C'est une sagesse pratique. Mon intention de vie est capable de me finaliser et peut me finaliser. Elle a la capacité de me finaliser, d'organiser tout en vue de cela. C'est quand même quelque chose de grand et d'important. C'est pour ça que la vie morale, vous voyez, commence avec cette intention de vie et l'aspect de la prudence. On l'appellera prudence quand justement ce sera organisé. Au début, c'est une recherche. La prudence se donne à moi comme une recherche. Une recherche intellectuel au plan pratique pour voir toutes mes richesses. Chacun d'entre nous avons des richesses différentes. Je le vois très bien avec ceux qui sont auprès de moi. Leur organisation de vie se fait différemment que moi. Il y a ce petit univers qui est en moi, s'organise par la prudence. Et la prudence n'existe qu'à partir d'une intention de vie. Elle dépend de la fin, la prudence. Et quand il n'y a plus la fin, c'est plus la prudence. Elle est dépendante de la fin et dans cette attraction de la fin et dans cette connaissance que j'ai de moi-même, je peux organiser ces différents moyens en vue de cette fin. Il y aura donc toute une phase de recherche des moyens pour atteindre cette fin, où je me regarde moi-même, connais-toi toi-même, la connaissance de soi, connaissance pratique des capacités que j'ai par mes relations, par ma situation et de moi-même. Je sais que je suis fragile, que je suis faible dans tel domaine, mais quelqu'un pourra m'aider. Je suis au contraire beaucoup plus fort dans un autre domaine, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous, on a une certaine prudence, mais qui se fait tout le temps. Et au fond, le progrès dans votre vie, de votre autonomie, provient de cette connaissance prudentielle. Et vous voyez que la connaissance prudentielle est une connaissance pratique, affective, parce qu'il y a l'intention, et pratique. C'est plus l'affectivité toute pure, c'est l'affectivité dans la possibilité de l'atteindre, d'atteindre ma fin. C'est donc ce qui est capable d'être, de se réaliser en moi, ce qui est capable de soutenir mon activité que je puis faire. La prudence ne peut pas être uniquement au niveau des possibles. C'est au niveau de ce que je peux faire. L'acte prudentiel, qui n'est pas encore la vertu prudentielle, mais est embryonnaire. Les vertus s'acquièrent par les activités. Donc avant d'être prudent, il y a des actes prudentiels. C'est naturel, les actes prudentiels. Vous avez tous, sans avoir la vertu de prudence, du moins, vous l'avez peut-être, mais avant de l'avoir, vous étiez capable de poser des actes prudentiels. Des actes imparfaits, mais qui étaient quand même prudentiels. Et ce n'est que quand vous avez multiplié ces activités prudentielles que la vertu de prudence s'acquiert. Quand vous dites, voilà, un homme prudent, ça met du temps. On n'est pas prudent quand on est jeune. C'est impossible. Parce que les passions dépassent. Et on comprend très bien ça, on voit très bien ce passage des passions, le concupiscible ou l'irascible, dépasse cette mesure de prudence qui est là pour arrêter cette espèce d'absolu, mais de faux absolu, que sont les passions. Et l'exemple de Platon est très juste, imaginativement, c'est comme le cheval qui risque de s'emporter et on freine, on tient les rênes. La présence tient les rênes du concupiscible, de l'irascible, qui sont en nous, nos capacités d'aimer, nos capacités de lutter, parce qu'on sait qu'on est dans la lutte. plus nous désirons un bien important, plus la lutte sera forte. Donc plus nous aurons besoin de ce capital que nous avons en nous de force, qui est l'irascible. Un homme sans irascible n'a pas de puissance. Un homme sans concupiscible n'a pas d'amour. Vous voyez, ce sont des réserves que nous avons en nous qui sont très fortes. Réserves de l'âme qui informe le corps. Parce que l'irascible et le concupiscible ne peuvent se comprendre qu'au niveau sensible, au niveau passionnel. Très important de voir naître en nous ces passions et de les connaître, de connaître nos capacités de nous mettre en colère. Quand ce qu'on a décidé de faire et qu'on a un obstacle, on se met en colère contre cet obstacle, contre la personne qui maintient ce frein et qui arrête. On doit savoir ça. Est-ce qu'on est capable de lutter contre ces forces qui s'opposent à nous? Et la prudence évalue tout cela. C'est pour ça qu'elle met longtemps à pousser, la prudence. Parce que nous mettons longtemps avant de connaître nos capacités d'irascible et de concupiscible. C'est vrai. Mais nous arrivons quand même à les connaître par l'expérience. On voit bien ce qui nous met en colère. Et quand vous êtes en face d'une injustice, vous mettez en colère. Si vous avez un petit peu d'irascible, alors au noviciat, on fait attention. Hein. L'irascible, on le laisse un peu par derrière. Il faut pas montrer ses griffes. Je vous dirai, vous êtes beaucoup trop irascible, ça n'a pas la vocation, c'est impossible de vivre avec vous. Dès qu'on s'oppose à vous, immédiatement vous bondissez, vous essayez, parce que c'est vous qui êtes l'objet de toute chose. Mais c'est vrai, on lutte contre l'irascible plus que contre le concupiscible. C'est plus visible. Le concupiscible, il est très astucieux. Le concupiscible, il se cache. Pas l'irascible, il se manifeste. Des personnes qui ont beaucoup d'irascible, elles se manifestent énormément. Les personnes de concupiscible, c'est le choc qui retire ses qui ne dit rien, qui attend. Tandis que l'irascible, c'est le chien qui aboie. Nous avons tous un chien, un chat. Le chat miaule. Et le chien aboie. Et l'activité prudentielle plonge dans tout cela en nous, dans notre irascible. On connaît assez vite son irascible. Puis on le connaît aussi par les autres. Parce que les autres souffrent souvent beaucoup plus de notre irascible que de notre concupiscible. Beaucoup plus. Mais le concupiscible est très astucieux, il se tait. Et puis il rebondira après. C'est très curieux. Très curieux ça. De voir que le concupiscible va quelquefois longtemps ne pas se manifester et tout d'un coup il se manifeste. Quand il a été réprimé sans être corrigé, sans être éduqué. C'est pas la même chose hein, de comprimer quelqu'un, c'est défendu, c'est défendu. Donc, alors on arrête le concupiscible et on ne l'éduque pas. La vertu éduque le concupiscible. Arrêter le concupiscible, c'est pas du tout la vertu. Mais quelquefois, vous voyez, c'est là où la prudence en nous doit être vraiment une prudence vertueuse, pas une prudence qui nous donne une espèce de force intérieure pour paraître vertueux. On veut paraître vertueux. Alors on dit au concupiscible, tais-toi. Mais il ne s'éduque pas. Et là, il y a ça à chacun d'entre nous. Connaître nos capacités très grandes d'aimer sensiblement l'affectivité. Et puis, au contraire, l'irascible, la puissance de conquête, d'être victorieux, aimer le combat. Chez les personnes où l'irascible est très développé, elles aiment toujours les situations combatives. Et elles créent le combat. Elles créent les oppositions. Parce que c'est dans les oppositions que l'irascible se manifeste. Et on aime ça. C'est très curieux. On voit très bien ça. Ça se voit visiblement. La prudence consiste, comme connaissance pratique, à voir en moi cette connaissance de ses facultés. Vous voyez, ce sont les passions, ce sont des capacités. Donc, quand elles sont des capacités uniquement, elles ne sont pas connaissables. Elles ne sont connaissables que lorsque elles s'actuent. Et c'est pour ça que l'éducation consiste à laisser suffisamment de liberté pour que le concupiscible puisse montrer son nez. Si vous arrêtez toujours le concupiscible parce que vous êtes dans un point de vue de défense, et une défense telle que vous avez peur, alors vous l'arrêtez, vous n'éduquez pas du tout. Et quand vous avez ça sortira. Et ça sortira d'autant plus violemment que vous avez maintenu fortement. C'est là la très grosse difficulté d'exercer l'autorité. Elle ne s'exerce que vis-à-vis de la prudence, vis-à-vis des autres. Oui, la prudence, parce que c'est une vertu pratique de l'intelligence. Elle regarde soi-même et les autres. Elle regarde d'abord soi-même. Si on n'est pas prudent vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vous-même, on ne peut pas être prudent vis-à-vis des autres. C'est la même vertu. Vous n'avez pas une vertu de prudence à l'égard des autres et une vertu de prudence vis-à-vis de vous. Les hommes politiques devraient être tous des hommes prudents. Oh, ils ne le sont pas, la plupart du temps. Et alors, ils vous embarquent n'importe où. Vous voyez, la vertu de prudence étant une sagesse pratique, c'est capital, ça. Je crois que pour nous, notre auto-éducation, pour l'éducation des autres, c'est absolument capital de comprendre ce que c'est que l'épanouissement de cette connaissance pratique vis-à-vis de toutes les capacités que nous avons, nous, de tout le milieu dans lequel on est. On agit différemment dans un milieu de lutte ou dans un milieu de paix. Mais on sait que la paix n'existe jamais totalement. Et donc, on est comme toujours un homme prudent. Il sait qu'il avance dans la lutte. Il peut toujours y avoir des taupes. On voit ce que c'est, hein ? Des animaux qui par en dessous avancent. Ils avancent plus vite que nous. Et on croit que le terrain est paisible. Pas du tout, il est miné. ça, c'est la prudence. Et alors, la prudence, vous comprenez bien, elle est sagesse dans l'ordre moral, mais elle n'est pas sagesse dans l'ordre chrétien. Et là, on ouvre tout de suite une porte. Dans l'ordre chrétien, il y a les vertus cardinales, les vertus théologales. Et c'est vis-à-vis de la prudence qu'on saisit le mieux la diversité d'une morale humaine et d'une morale chrétienne. Parce que c'est l'intelligence pratique. L'intelligence, elle est intelligible. C'est intelligible ce qu'on décide au point de vue prudentiel. Et la prudence, elle implique une phase de conseil, de délibération, de savoir tous les moyens possibles. Et puis ensuite, on voit ce qu'on est capable, vu les circonstances, d'agir. Et c'est la même chose pour une prudence gouvernementale vis-à-vis des autres. Donc, vous voyez, le passage de l'intention au choix se fait grâce à la prudence. La prudence est cette connaissance du terrain nous, du terrain dans lequel on est. Et elle exige d'avancer, d'aller toujours à l'avant. Un homme prudent, ce n'est pas un homme qui regarde d'abord ce qui a été fait. Un homme prudent, c'est celui qui regarde d'abord ce qu'on peut faire, ce qu'on peut agir en premier lieu, et non pas du tout regarder en premier lieu ce qu'on a fait. Parce que là, on n'avancerait plus. On avait les difficultés et on n'avancerait plus. Et ne plus avancer, ce n'est pas prudent. Parce que la finalité se conquiert. On est en lutte pour conquérir la finalité. Et si on arrête cette espèce de désir de conquérir la finalité, au nom de la prudence, Jésus le dit dans son évangile, la prudence avant d'entrer dans un combat, il faut mesurer ses forces et les forces de l'ennemi. Il y en a qui font ça tellement bien que les forces de l'ennemi étant tellement supérieures qu'on n'agit plus. Et c'est pas prudent. L'homme prudent cherche toujours un terrain où il peut agir, où il peut avancer. Parce que arrêter la vie, c'est terrible. Donc, il y a au point de vue humain, au point de vue moral, un moment très important. La connaissance pratique, pas spéculative, pratique du terrain. Le terrain, nous, nous sommes un petit monde, du terrain, là où on est, la relation avec les autres, savoir sur qui on peut compter. C'est la prudence. La prudence doit donc, implique donc le conseil, la délibération. Délibération personnelle, délibération avec les autres. Et c'est par la prudence qui s'éveille en nous que on connaît ceux sur lesquels on peut compter, ceux sur lesquels on ne peut pas compter. C'est l'homme prudent, c'est la prudence. C'est très très riche la prudence. Et c'est très difficile.